Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9. Bonjour, c'est Cafard.
Bonjour, c'est Cancrela, vous êtes sur CFM Rhodes et vous écoutez les blablates.
Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs bouquins. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet léger et pas du tout contemporain, l'identité. C'est l'histoire d'un Russe? Non, d'un Français. Enfin bref, c'est l'histoire d'un mec.
Ok, moi, mon mec à moi, il nous parle d'aventures, celle de hérons, de chats et de souris.
Mais avant de commencer, une petite pause musicale. À tout de suite.
Trying to do it.
C'était Bonnie M, Rasputin. Vous êtes sur CFM Rodez 107.9 et vous écoutez Les Blablates. Alors Cafard, cette histoire, ce mec.
Oui, alors justement, Rasputin, pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle de la Russie.
Ah, encore, la Russie, hein. Super.
Oui, je fais pas du tout une fixette sur la Russie. Donc, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre assez récent qui date de 1995, qui s'appelle Le Testament français et qui a été écrit par Andrei Makin. Un livre assez contemporain quand même. C'est un roman d'inspiration autobiographique. Pourquoi d'inspiration autobiographique? Parce qu'il y a quand même des différences avec la vie de l'auteur, mais elles sont infimes. Donc, on peut pas vraiment parler d'une autobiographie pure et dure, mais quand même, trois quarts du roman, c'est son histoire, en tout cas l'histoire de son enfance.
D'accord.
Et justement, c'est un roman sur les origines, sur l'identité, sur l'immigration aussi. Donc, c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc, il est intéressant à lire sous cet angle-là.
Mm-hmm.
Parce que c'est vraiment l'histoire d'un enfant qui est tiraillé entre deux patries, quoi. C'est la relation, en fait, entre un petit-fils et sa grand-mère. Et la grand-mère en question, elle est française et elle est immigrée en Russie.
D'accord.
Et donc, son petit-fils est russe, mais elle, quand elle le garde pendant l'été, elle lui parle de la France.
D'accord.
Et du coup, lui est complètement fasciné par la France et en même temps... il est russe, enfin voilà, il y a toute une question comme ça, très intéressante.
D'accord. La grand-mère, elle vit en Russie.
Oui, la grand-mère, elle vit en Russie. Mais elle a passé une partie de son enfance et une partie de sa vie en France. Makin, justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a vécu en Russie pendant son enfance.
Mm-hmm.
Mais il avait sa grand-mère qui était française, qui lui a parlé de la France, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cet homme, cet écrivain, habite en France, il est revenu. Oui, parce que moi je dis revenu parce que c'est une autre génération, mais c'est la même famille, donc voilà, pour moi c'est un retour. Il est revenu, et quand il a écrit ce roman, il l'a écrit directement en français. C'est pas en russe,
d'accord,
puis ensuite traduit en français. Andrei Makin, un auteur russe, qui écrit en français, et qui vit en France maintenant.
Donc ça veut dire que le français, il l'a pas appris seulement avec sa grand-mère. Il a aussi sûrement étudié l'écriture. Il a étudié en France ou il a étudié en Russie?
Alors oui, donc il a découvert la langue française avec sa grand-mère,
mm-hmm,
qui lui parlait français, etc.
Mm-hmm.
Et ensuite, il a approfondi la connaissance du français en Russie. Et après, il est venu en France, mais bien
d'accord,
plus tard, quoi, à l'âge adulte. Le Testament français, c'est l'histoire de Charlotte, une femme d'origine française émigrée en Russie avec sa mère entre les deux guerres. Et c'est l'histoire de sa relation avec son petit-fils, Alosha. La grand-mère raconte à ses petits-enfants le Paris et la France de son enfance. Le narrateur s'imprègne de ces récits, de cette culture française et de ce pays lointain qu'il qualifiera comme la France Atlantide. Donc c'est vraiment une espèce de France mythique, extraordinaire, etc.
Alyosha, c'est le narrateur.
Oui, c'est le nom
C'est le nom du narrateur.
Mais c'est aussi l'histoire de cette femme exilée en Russie qui a vécu de nombreux bouleversements historiques. Et c'est surtout l'histoire du narrateur tiraillé entre ses origines françaises et sa patrie, la Russie.
Donc ça veut dire que dans le roman, on nous parle des événements aussi de la Russie et de l'histoire un petit peu?
Oui, un petit peu, parce que c'est quand même ancré dans l'histoire de la France et dans l'histoire de la Russie du XXe siècle.
Mm-hmm.
Donc on parle des deux guerres, on parle de l'ère soviétique, de la création de l'URSS, etc.
D'accord.
Enfin, voilà.
D'accord.
Mais sous
le regard familial, quoi.
Voilà, sous un regard individuel, pas historique ou social ou quoi que ce soit.
D'accord. Tu peux nous dire pourquoi est-ce que la grand-mère, elle fuit d'abord? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle émigre? Enfin, ou elle fuit, je sais pas si elle fuit d'ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'elle émigre? Ou ça fait partie des suspens?
Non, ça fait partie des suspens. Non, en fait, c'est juste que elle fuit la guerre, quoi, c'est tout. Hein.
D'accord.
Voilà. Allez, je passe à la lecture. Au début du roman, on nous présente cette grand-mère comme une grand-mère une figure un petit peu mythique, extraordinaire. Et au fur et à mesure du récit, on va apprendre à mieux la connaître et à l'humaniser aussi. Du coup, les enfants, pendant les vacances d'été, vont chez leur grand-mère et ils sont fascinés donc par tous ces récits sur la France, etc. Et aussi, ils fouillent un petit peu dans les valises, ils trouvent des choses. Enfin voilà. Le passage que je vais vous lire, justement, on voit l'attachement de la grand-mère à son héritage français et l'incompréhension des enfants par rapport à ça.
C'est au début du roman, du coup.
Oui, c'est la cinquième page du roman. C'est dans le courant de l'été suivant que nous vîmes, un jour, ma sœur et moi, notre grand-mère pleurer, pour la première fois de notre vie. Elle était à nos yeux une sorte de divinité juste et bienveillante, toujours égale à elle-même et d'une sérénité parfaite. Son histoire personnelle, devenue depuis longtemps un mythe, l'a placée au-dessus des chagrins des simples mortels. Non, nous ne vîmes aucune larme, juste une douloureuse crispation de ses lèvres, de menus tressaillements qui parcoururent ses joues, des battements rapides de ses cils. Nous étions assis sur le tapis jonché de bouts de papier froissé et nous nous adonnions à un jeu passionnant. En retirant des petits cailloux enveloppés dans des papillotes blanches, nous les comparions. Tantôt un éclat de quartz, tantôt un galet lisse et agréable au toucher. Sur le papier étaient marqués des noms que nous avions pris dans notre ignorance pour d'énigmatiques appellations minéralogiques. Fécamp, La Rochelle, Bayonne, dans l'une des papillotes, nous découvrîmes même un fragment ferreux et rêche, portant des traces de rouille. Nous crûmes lire le nom de cet étrange métal, Verdun. Plusieurs pièces de cette collection furent ainsi dépouillées. Quand notre grand-mère entra, le jeu avait pris depuis un moment un cours plus mouvementé. Nous nous disputions les pierres les plus belles, nous éprouvions leur dureté en les frappant les unes contre les autres, en les brisant parfois. Celles qui nous paraissaient laides, comme le Verdun par exemple, furent jetées par la fenêtre dans un parterre de dahlia. Plusieurs papillotes s'étaient trouvées déchirées. La grand-mère s'immobilisa au-dessus de ce champ de bataille parsemé de cloches blanches. Nous levâmes les yeux. C'est alors que son regard gris sembla s'imprégner de larmes, juste pour nous rendre son éclat insupportable.
Waouh ! C'est une très jolie lecture.
Oui, donc un style quand même assez facile à lire, assez clair, tout en étant un petit peu poétique, quoi.
C'est pas mal mélancolique, en fait, quand même, comme ambiance.
Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est vraiment les deux ambiances différentes entre la France et la Russie, quoi, qui s'entrechoquent. Parce que, par moment, par exemple, la grand-mère, elle va raconter un souvenir de son enfance en France, etc. Le petit garçon, il va s'imaginer la scène. Mm-hmm. Et puis à la fin, il va se tourner vers la fenêtre et puis il va regarder la toundra, le gros choc, quoi, ouais. Entre la différence entre la sortie au cinéma dans le Paris du début du siècle et la toundra qui est juste à côté. Quoi. Ce passage des cailloux, là, moi, je le trouve vraiment magnifique parce que c'est vraiment la grand-mère qui s'est raccrochée à son passé avec des petits cailloux qu'elle a ramassés à droite à gauche. Et les petits morveux là qui foutent tout en l'air.
Ah ouais, elle est super bien cette scène. Ouais. C'est vrai qu'on imagine bien, puis c'est dramatique et drôle quoi. C'est assez.
Voilà, c'est ça parce que c'est étonnant, ouais. Exactement. Mais c'est un peu tout le livre quoi, parce qu'il y a l'aspect dramatique de leur vie parce que mine de rien, ils vivent tous, même le narrateur plus tard, en tant qu'adulte, il va vivre des choses difficiles. Mm-hmm. Mais il y a quand même ce décalage un petit peu poétique quoi et drôle quoi.
Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il te marque particulièrement ce livre?
Alors pour plusieurs raisons. Tout l'aspect historique qui est quand même intéressant parce que on a une nouvelle vision quoi de l'histoire. Mm-hmm. On nous parle de Paris, de la France du XXe siècle, des deux guerres mondiales, de la montée du communisme, de la création de l'URSS, des goulags, de la famine, etc. Ouais. Mais vécu de l'intérieur, en fait. Ouais. Du coup, c'est pas du tout un roman historique ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'impact de l'histoire, avec un grand H, sur la vie d'un individu, sur la vie d'une famille. Voilà, parce que du coup, la guerre va entraîner aussi d'autres changements dans leur famille, d'autres migrations, etc. Enfin, la famine entraîne aussi des conséquences sur la famille, l'URSS, la création de l'URSS, etc., l'ère soviétique, tout influence leur vie forcément.
Ouais. Ouais, puis ils ont droit à tous les gros événements de cette période, c'est assez impressionnant quand même.
Et du coup, c'est vachement intéressant parce que on n'est pas centré sur la Première Guerre ou la Deuxième Guerre ou l'ère soviétique, etc. Il y a tout, c'est ça.
Et c'est une femme qui traverse aussi une bonne partie de ça finalement, enfin parce que la guerre vue par de l'intérieur, c'est assez intéressant aussi de pas parler de la guerre juste du côté stratégique, enfin là on est vraiment
au masculin,
oui.
Sur le champ de bataille quoi. Oui,
voilà.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Voilà, là c'est l'impact sur sur une vie de femme, quoi.
Qu'est-ce qui se passe, ouais, derrière, quoi.
C'est ça. Ah, ben, je peux pas me marier parce qu'il est parti au front et qu'il est mort. Voilà. Ouais. Du coup, bon, ben, je vais rejoindre ma mère qui est en Russie, mais comment je fais? Parce qu'il y a aussi toute cette question logistique de comment
on se déplace.
Comment aller en Russie. Mmh. Et après, à la fin du roman, il y aura aussi la question logistique du comment revenir en France.
Mmh.
Voilà. Et donc, il y a tout un périple à travers l'Europe, quoi.
D'accord.
Donc là, c'est un petit peu clin d'œil à Michel Strogoff.
Eh oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que du coup, ils prennent le train, le cheval, la calèche, là, je sais plus comment
c'est ça. Bon, là, dans ce roman, ils font une grosse partie à pied, quoi.
Une grosse partie à pied ouais. aussi, ouais, d'accord.
Et du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est le deuxième point intéressant, je trouve, de ce roman. Toute cette bataille contre la vie, contre la force tellurique et tout, parce que en Russie, il faut survivre à l'hiver, alors qu'on n'a pas à manger, il faut trouver des habits chauds, enfin, il y a tout cet aspect-là, quoi.
La dureté vraiment ouais, de la Russie.
La dureté de la Russie qui contraste du coup avec la France fantasmée.
Ouais, l'image de la France des années folles du coup en plus. Non,
voilà c'est ça. Ouais. Au début elle parle de la Belle Époque.
Ouais,
tout,
voilà. Ouais.
Donc c'est vraiment.
Le contraste est fort quoi.
Vraiment une recherche de l'identité et des origines.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs l'aspect fantasme du pays d'émigration, enfin de la France, parce que c'est vrai que, enfin, c'est je pense quelque chose que les gens qui ont plusieurs pays dans leur histoire, enfin qui ont plusieurs nationalités ou qui ont vécu ça, ils doivent ressentir cette espèce de le partage qu'on peut avoir entre deux cultures, deux pays, mais aussi le côté fantasmé à chaque fois qu'on n'est pas dans le pays concerné. Et du coup là, la France, enfin c'est ce que tu dis vraiment, l'opposition qui est forte du coup entre la dureté de la Russie dans laquelle ils vivent et puis la France qui a l'air d'être le pays un peu parfait quoi.
C'est ça. Voilà la France.
Parce
là,
qu'ils y sont pas quoi.
Mais, exactement. Parce que là la France elle parle vraiment de tout le raffinement français, quoi.
Mmh.
Donc, du coup, forcément, le narrateur, il est complètement fasciné par cet aspect-là. Mais c'est vrai que le narrateur, il est complètement tiraillé parce que quand, à l'école, par exemple, son amour pour la France ressort et du coup, on le rejette, ses camarades le rejettent en disant « Oh, mais c'est bon, ta France, nanana, etc.
Ouais.
T'es pas russe, etc.
Ouais. »
Et en même temps, il se sent russe. Alors, il y a plusieurs passages comme ça où il est vraiment dans cette dualité. D'ailleurs, à un moment, il dit dans le roman, il dit « Je suis russe ». Voilà,
d'accord.
Il dit clairement.
Il
quoi.
Affirme « Je
Mais,
suis russe ».
Mais il va quand même passer plusieurs mois à partir à pied en France. Et il y a aussi la désillusion de l'arrivée en France.
Oui,
voilà.
Il a le syndrome comme les Japonais à Paris, qui font des dépressions en voyant
disons
le
que
vrai
c'est,
Paris.
C'est beaucoup plus hard que ça, je trouve, parce que, donc, bien sûr, il y a la désillusion quand il arrive en France, il se rend compte que c'est pas aussi parfait qu'il l'avait imaginé, etc. Et puis, il se retrouve dans une situation très précaire, comme la plupart des migrants.
Oui.
Parce qu'il n'a rien, quoi. Il n'a pas d'argent, etc.
Ouais. D'accord.
Du coup, à la fin, quand il arrive à Paris, eh bien, il dort dans un caveau dans le cimetière du Père Lachaise. Donc c'est quand même moi quand je l'ai lu, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit waouh.
Ça c'est une image aussi hyper cinématographique et littéraire. Enfin ça marque les esprits. Ça,
oui, c'est
pense.
Ça. Voilà, c'est ça.
Quand
c'est très esthétique.
Lu,
quoi, c'est ça.
C'est vraiment, tu t'en souviens, c'est comme les cailloux. Enfin,
c'est ça.
C'est un truc ça a marqué.
C'est rigolo ce que tu dis parce que les deux points dont je me rappelle vraiment de ce roman, enfin tu sais les deux trucs qui me viennent en tête quand je pense à ce
les
roman,
images.
C'est les cailloux. Et le
cimetière. Ouais, mais c'est, ça fait tellement oui, on l'imagine tout de suite, quoi. C'est rigolo.
Autre point important, je trouve, c'est la vision que cela donne de la culture française.
Mm-hmm.
Pour un Français, en tout cas, parce que, en tant que Français, forcément, on a une vision de notre pays, quoi.
Mm-hmm.
Et là, on a une vision complètement différente, très fantasmée, alors que nous, bon, on a le recul, quand même. Et puis, il y a plein de petits trucs drôles, quoi. Par exemple, le petit, quand il est enfant et qu'il cherche dans la valise de sa grand-mère des documents sur la France, etc., il tombe sur des menus et notamment sur le plat Bartavel et Ortolan. Et alors, il bloque complètement là-dessus, tu vois, sur le fantasme de ces mots, quoi. Bartavel et Ortolan, etc.
Ortolan,
Bartavel, c'est une catégorie de perdrix.
D'accord.
Et Ortolan, c'est une catégorie de moineaux. Des oiseaux qu'on mangeait à l'époque, en fait.
D'accord.
Mais qu'on ne mange plus maintenant.
Ouais.
Voilà, enfin, il y a vraiment tout ce raffinement de gastronomie, etc. Et il y a aussi la question de la littérature, parce que la grammaire, elle leur fait découvrir la France et Paris à travers des œuvres littéraires. Donc, par exemple, elle leur récite des poèmes de Baudelaire, de Verlaine, de Victor Hugo ou de Gérard de Nerval.
Ça a dû te plaire, ça, Cafard.
Oui, j'avoue, ça m'a plu.
Ouais, elle a la classe quand même, la grand-mère. Donc du coup, elle leur récite des poèmes.
Alors là, je crois que tu as tout résumé. Elle a la classe, la grand-mère, parce que c'est vraiment ça, parce que c'est aussi son histoire à elle. Ouais. Et elle a une histoire extraordinaire, quoi.
Ouais.
Et c'est une histoire vraie. Enfin, il y a 2-3 passages qui sont un peu romancés, etc. Mais c'est quand même une histoire vraie. Et d'ailleurs, ce roman, il est aussi bien pour la fin, parce qu'à la fin, il y a une espèce de rebondissement de ouf. Mais j'en dirai pas plus. Mais alors, un rebondissement de ouf qui remet en question tout. What the fuck, quoi, tiens, what the fuck.
Ok. Ça, c'est chouette, parce que du coup, bon, ça a l'air de se suivre, quoi. C'est une histoire qui a l'air assez continue. Et
oui, c'est linéaire.
Voilà.
Oui.
Et du coup, qu'il y a un rebondissement, c'est rigolo, ouais. Ça paraît inattendu. Chouette.
Oui, le rebondissement est en lien avec le titre, Le Testament français.
Voilà, ah, pour, d'accord.
Un petit, pas plus.
Un indice.
Voilà.
Ok.
Le titre, Le Testament français, ça fait penser à quelque chose de triste, etc. Mais en fait, bien sûr, il y a des parties un petit peu tristes et mélancoliques, etc. Mais globalement, c'est quand même un livre plein d'espoir et plein d'amour, parce qu'on voit vraiment la relation entre les personnages, l'amour qu'ils se portent dans la famille, etc. Bon, alors, pour moi, c'est pas le plus important, mais je vais quand même le dire. C'est un livre qui a eu plusieurs prix quand il est sorti en 1995.
Mmh.
Alors, pour la petite histoire, à l'époque, personne ne voulait publier Le Testament français d'André Makine.
Ah.
Donc, il a fait des pieds, des mains, etc. Donc, on voulait pas parce que c'était un Russe qui écrivait super bien le français et tout. Mmh. Enfin, bon, voilà. Hein. On va pas non plus donner trop d'importance à des étrangers, faut pas déconner.
Oui.
Donc, finalement, il a réussi. Il y a quand même un éditeur qui a été moins con que les autres qui a dit « Attends, c'est génial. »
C'est quand même super bien.
Voilà. Donc, je l'édite. Et du coup, il a gagné 3 prix lors de l'année de parution en 1995. Et pas n'importe quel prix. Il a gagné le prix Médicis, le prix Goncourt et le prix Goncourt des lycéens.
D'accord, bon.
Et ouais. Ça déchire. Hein.
C'est pas mal. Ok.
Donc, c'est un texte qu'on retrouve dans à peu près toutes les éditions. Hein. Mm-hmm. Folio, Gallimard, etc.
D'accord.
Et il fait environ 300 pages. Ça se lit quand même assez bien et assez vite. Parce qu'on est aussi bien pris dans l'histoire.
Ouais.
On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour la grand-mère, qu'est-ce qui va se passer pour le narrateur, etc.
Et puis c'était très intéressant, merci beaucoup Cafard. Et on va écouter une deuxième chanson, Pete Doherty, The Last of the English Roses.
In your mother's old green scarf, famous auntie, Arthur's trousers on, slapped by that slapper. Now we all laugh. She loved the loudest song in 93. Catch on the beat, knees off the beat, creeping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together. All the girls together. She's the last of the English roses. She's the last of the English roses. She knows the Rodneys from the Stanleys, the Kappas from the Reeboks, and the Tip from the Tat, and Winston's from the Enoch. Finally, daylight, coming out, coming alive, around the snooty table, you dance the fruity tooty. Almost built a lager, toasting girls of great beauty.
Vous êtes sur CFM Rodez 107.9 et vous écoutez Les Blablates. Cancrela, alors, ton histoire?
Mon histoire, c'est l'histoire d'un trait particulier qu'une fois qu'on a vu, on s'en souvient. C'est un trait typé qui fait un peu comme si c'était négligé, hésitant, une ligne un peu chevrotante et pas très uniforme. Des petites libertés sur l'anatomie qui sont faites à dessein, jeu de mots, à dessein. C'est Quentin Blake. Voilà, c'est un illustrateur et auteur anglais de 90 ans maintenant.
Et oh, c'est... le vieux, quoi.
Oui, c'est un ponte. C'est vraiment un ponte. On peut le dire parce que du coup, il est tout de même sir par la reine d'Angleterre. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
Ouh là là, on rigole plus, là.
Oui, et il est aussi ambassadeur lauréat du livre jeunesse. Une fonction soutenue par la couronne d'Angleterre, donc pour promouvoir la lecture auprès des jeunes.
Eh ben dis donc, que ouais, de titres.
Exactement. C'est aussi un prof d'anglais. Il était prof d'anglais au collège français de Londres. Donc lui aussi, il a un petit peu comme Andrei Makine une histoire entre deux pays, j'imagine. Et donc en fait, c'est un illustrateur très connu qui a fait beaucoup de binômes avec des auteurs célèbres comme Roald Dahl aussi, dont on aura l'occasion de parler, je pense, plus tard. Mais là, j'ai choisi de vous parler de son association avec John Yeoman.
Yeoman.
Voilà, c'est sa première collaboration en illustration jeunesse.
Yeoman, est-ce que c'est le cousin de Eman?
Sûrement. Il y a toute une famille, il y a Yeoman, No Man, Yeoman. Bon, bref, c'est donc la collaboration originelle, on va dire. Ils étaient en fait, c'est des amis d'enfance, et donc John Yeoman, c'est un écrivain, il est poète à ses heures aussi, et il a beaucoup d'humour, plein de malice, et donc il a écrit pas mal de petites histoires, et il a demandé donc à son ami d'en illustrer. C'est lui qui l'a lancé un petit peu dans l'illustration, parce que Quentin Blake, donc il s'est lancé dans l'illustration pour les livres pour enfants, avec donc son copain John Yeoman. Pour la petite anecdote, Quentin Blake, c'est une de ses professeurs qui l'a vu dessiner sur ses cahiers quand il était au lycée, qui l'a poussé à en faire une activité professionnelle. Et c'est donc après son ami John qui l'a poussé à rentrer vraiment dans l'illustration jeunesse. Voilà. Ce John, il était directeur du fameux lycée français. Donc, ils se sont retrouvés pendant un petit moment à pas mal d'endroits. Et ce que je voulais vous présenter, donc, c'était deux livres qu'ils ont fait ensemble. Le premier, il s'appelle « Le chat ne sachant pas chasser ». Je
ouais.
le dis lentement.
Attends, je vais essayer. Je vais essayer. « Le chat ne sachant pas chasser ». Raté. « Le chat ne sachant pas chasser ». Ouh.
Oui. Oui. Il faut se concentrer après qu'on a dit « le chat ». En fait, il faut un grand moment de concentration. Donc voilà, ça c'est le premier livre, « Le chat ne sachant pas chasser ». Et le deuxième, c'est « Monsieur Fernand et Mademoiselle Estelle ». J'en ai pris deux pour donner un peu un aperçu de leur travail. Pour présenter donc premièrement le chat ne sachant pas chasser. Allez, ça y est.
C'est génial. Allez, petit défi là, hop, le
Tout
chat
monde
ne
le
sachant
dit.
Pas chasser.
Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un meunier grincheux, pas très sympathique au premier abord, qui donc a un moulin puisqu'il est meunier, et plein de souris à l'intérieur du moulin qui lui mène la vie un peu difficile, dure, et il décide de prendre un chat pour se débarrasser des souris. Seulement, le chat, comme le nom l'indique, il ne sait pas chasser. Et du coup, le meunier n'est pas très très satisfait. Le meunier est grincheux et pingre et un peu violent puisqu'il maltraite un petit peu le chat. Et donc les souris, elles se prennent d'affection pour le chat. Elles sont prises de pitié pour le chat. Elles décident de le soutenir et en fait elles décident de l'entraîner. Donc elles vont décider de lui faire prendre de l'exercice, de lui redonner confiance en lui pour qu'il se remette à chasser.
C'est génial, ça.
Oui, c'est complètement... Alors, c'est un peu... Moi, je trouve ces histoires, elles sont vraiment étonnantes, quoi. Il y a vraiment des trucs complètement inattendus, assez étonnants. Donc, elles décident de faire ça avec aussi comme argument que ça leur permettra de jouer, en fait. Voilà. Si le chat les chasse, c'est un argument de jeu.
Mais c'est super, cette vision des choses, là, de dire, bon... Ok, on va aider le chat, même si c'est notre ennemi, on va l'aider pour qu'il se sente mieux dans sa peau, quoi. C'est... Ouais. Enfin, dans sa fourrure.
C'est
un truc de ouf, quoi.
C'est vrai, dans sa fourrure rayée. Oui, c'est assez tigré, on dit pas rayé. Un chat rayé, ça n'existe pas. Un chat tigré.
Si, ça doit exister.
Peut-être. Ça s'appelle un tigre.
Voilà. Non, mais pas ce tigré, un tigre. Mais le chat, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, il a des espèces de rayures.
Ah voilà, c'est peut-être lui, voilà. Le chat rayé. Bon, et donc pour revenir à notre chat, donc tigré, il est soutenu par les souris, mais il est pas soutenu du tout par le meunier qui veut s'en débarrasser, puisque bon, il est quand même pas, même si il commence à chasser un peu, il est pas très bon, quoi.
Ouais, donc le meunier il dort pas, et son moulin il va pas trop vite alors.
Non, c'est ça, voilà. Il fait des graves insomnies, donc c'est pas tout à fait la chanson. C'est pas lui, en tout cas, on parle pas de lui. Et donc, du coup, il décide de balancer le chat dans le lac à côté du moulin.
Quel méchant.
Quel méchant. Voilà.
Pas bien.
Oui, c'est vrai qu'il est pas très sympa. Après, il y a l'explication dès le début que le moulin était beau et fonctionnait très bien avant, et après les souris, du coup, ça posait pas mal de soucis, et c'est pour ça que le meunier est grincheux. Donc on a une explication du fait du mauvais caractère du meunier. Donc il est pas genre fondamentalement méchant. Ça donne une impression que c'est à cause des souris, qu'ils sont pas méchantes. Donc bon, bref.
Donc c'est vraiment,
c'est rigolo.
C'est vraiment pas du tout une histoire sur il y a le bien, il y a le mal, il y a
non,
des gentils,
c'est pas
y a
très
des méchants,
manichéen,
quoi.
Non, exactement. Donc voilà, bon, l'histoire c'est ça. Les souris, donc elles vont sauver le chat et elles vont carrément le prendre sous leurs ailes, si on peut dire. C'est des souris, donc ça fait des chauves-souris. Et du coup.
Des battes souris.
C'est des battes souris. Donc c'est une histoire qui est quand même assez rigolote et assez inattendue, ouais, assez étonnante. De l'autre côté, la deuxième histoire, elle est aussi très étonnante, mais pas de la même manière. On est donc dans Monsieur Fernand et Mademoiselle Estelle. C'est l'histoire de deux hérons qui sont installés sur un étang, et donc il y en a un qui vit d'un côté, Monsieur Fernand, et Mademoiselle Estelle, elle vit de l'autre côté. Et Monsieur Fernand, il se sent un peu seul, et donc il a envie de prendre femme, et donc il pense à Mademoiselle Estelle, et donc il va la voir, il lui présente sa demande, et Mademoiselle Estelle, elle est prise de court, en fait. Alors, on pourra juger, hein, cette réaction un petit peu hâtive, mais prise de court, elle répond un peu violemment à la demande, et donc du coup, elle l'envoie un peu balader, pas très sympa. Elle lui dit qu'il a des genoux cagneux, qu'il est pas beau, enfin bon, bref, voilà. Qui voudrait, voilà, bon bref, elle l'envoie balader, quoi. Et puis en fait, elle se rend compte, une fois qu'elle l'a envoyé balader, qu'il est parti tout penaud, qu'elle l'aime bien, en fait, Monsieur Fernand, mais que du coup, elle s'est prise, c'était trop d'un coup. Elle était un peu stressée là sur le moment, elle n'a pas trop su quoi répondre, elle a répondu un peu hâtivement. Et du coup, elle retourne le voir pour s'excuser et lui dire que oui, en fait, elle est d'accord. Seulement, Monsieur Fernand, quand il la voit venir, il la reçoit comme il faut. Parce que bon, il n'a pas trop apprécié non plus le coup des genoux cagneux. Donc du coup, il l'envoie balader. Alors elle repart toute penaude, elle se met à pleurer sur le chemin du retour, elle revient sur son nid. Et Monsieur Fernand, il se rend compte qu'il vient de l'envoyer balader alors qu'en fait, elle voulait être sa femme. Alors il retourne la voir pour lui dire, bon, mais en fait, dans ce cas-là, je suis désolée, oui, on pourrait être ensemble. Mais du coup, Mademoiselle Estelle, elle veut plus. Elle dit, non, j'ai pas envie. Et ainsi de suite, pendant un petit moment. Et c'est, bon, évidemment, c'est super rigolo. Parce que, on voit les têtes, donc, des hérons qui sont dessinés un peu, on parle des genoux cagneux, mais c'est un peu ça, comme je disais tout à l'heure, la ligne, le dessin de Quentin Blake, c'est assez rigolo parce que c'est très, ça tremble un peu, donc vraiment sur des hérons qui ont des grandes pattes, des grands coups, des grands becs, c'est assez génial, ça leur fait des têtes, puis quand ils sont dépités, ils sont vraiment juste trop rigolos, quoi. et qui traverse le l'étang avec la tête baissée, les ailes complètement affaissées.
Ça reflète bien les difficultés des relations humaines, en fait, où chacun est pris par ses émotions et n'arrive pas à aller vers l'autre parce que il est dominé par son ego à deux balles là et qu'il n'arrive pas à aller au-delà de sa propre petite personne, quoi.
Oui, il y a un peu ce truc là, ouais, de entre la fierté, l'ego, le fait qu'on sait pas répondre ou que ben on sait pas trop, on est pris par un peu entre plusieurs émotions et des fois on dit pas exactement, enfin c'est un peu un mélange, on n'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on voudrait dire ou le moment et on passe un peu à côté, quoi.
En fait, c'est la version pour enfants avec des oiseaux de Orgueil et préjugés de Jane Austen, quoi.
Oui, tout à fait, mais oui, exactement. T'as complètement raison. C'est un peu ça, seulement
en
dans...
très condensé, quoi.
Ouais, mais seulement dans Orgueil et préjugés, ils finissent par y arriver.
Oui,
au bout
vrai.
D'un moment, ils y arrivent. Là, l'histoire, elle se termine par cette phrase. Donc, la dernière phrase la dernière page du livre, c'est « Et si d'aventure l'envie vous prend de passer dans le coin, vous les trouverez certainement encore occupés à aller et venir. Croyez-vous qu'ils parviendront un jour à savoir ce qu'ils veulent. » Voilà, ça termine comme ça. Et moi j'aime bien justement le fait que ça termine comme ça. C'est assez rigolo. On ferme le livre et t'es plongé avec cette réflexion sur le fait de réussir à se planter comme ça autant de fois, à pas s'accorder à deux comme ça, à se dire qu'en fait on s'apprécie.
Mmh. Je trouve que ça résume beaucoup. Beaucoup de relations amoureuses foirées.
Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est vraiment rigolo.
Et c'est pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû.
Mais oui,
et tout.
Oui, et même j'ai presque envie de dire pas que les relations foireuses, même dans les relations actuelles,
oui, c'est vrai, ouais.
On a des moments comme ça où on est pris dans les disputes à rester dans une espèce de conflit comme ça, alors qu'en fait, bon, on essaye quand même de se dire...
C'est ça.
On n'arrive pas à se trouver, quoi. Il y a ce moment où ça fonctionne pas, là.
C'est ça. Et c'est vraiment débile parce que le truc du... on a envie d'être ensemble, de s'amuser et tout...
Mais on passe,
son temps à s'arrêter sur des trucs à la con qui n'ont pas d'intérêt.
Ouais. Voilà. Donc c'est bon, c'est fait avec. C'est vraiment le principe de la fable. Hein. C'est vraiment on a les animaux pour détacher un peu qu'on est en train de nous parler de nous-mêmes. Et il y a effectivement sûrement une morale, mais qu'il faut trouver, qui est pas écrite. Donc c'est bien le principe de la fable. Et c'est assez fascinant de simplicité et de dérision sur nos états et nos manières. Vraiment très très chouette et très drôle. Bon, il y a un peu triste aussi. Mais bon. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de Quentin Blake, particulièrement donc l'illustrateur. Là, c'est les versions donc plutôt vraiment jeunesse, avec John Newman, donc avec le chat ne sachant pas chasser, et Monsieur Fernand et Mademoiselle Estelle, qui sont voilà à partir de... Allez, c'est à partir de 4 ans, je pense qu'on peut commencer à les lire. Enfin, pas l'enfant de 4 ans.
Oui, mais les parents peuvent les lire.
Les parents peuvent les lire, voilà. Et les parents en profiteront aussi.
Pour remettre en question leur comportement.
Voilà. Se faire une vieille...
un vieux questionnement,
voilà, sur leur relation. Voilà, bon, ce que je voulais souligner vraiment, c'était le côté... le plaisir qu'on a à regarder les illustrations de Quentin Blake, parce que je pense que les enfants comme les adultes, c'est assez général, il est vraiment très très apprécié. C'est pas pour rien qu'il a eu tous ces titres-là. Il a été directeur du département de l'illustration du Royal College of Art, donc bon, il a fait vraiment quand même sa place dans le milieu, hein, on peut dire. C'est vraiment une influence, donc c'est chouette pour les parents et pour les enfants de connaître ça. Et c'est vrai qu'il a un trait assez rigolo. Il arrive vraiment à déformer un peu les corps. Alors là, je parle même plus plutôt pour les humains, comme dans Le chat ne sachant pas chasser.
Bravo.
J'hésite un peu, mais j'y arrive. Le meunier. Il a, voilà, par exemple, il va s'amuser à lui faire les bras un peu trop, je sais pas, un peu trop longs ou un peu trop, le cou un petit peu décalé, mais ça va apporter vachement à la scène. Et ça, il a vraiment une manière de mettre en scène les choses. Justement, lui-même, il parle de ça. Il explique sa manière de faire en disant que l'illustration jeunesse, ça s'apparente plus à une mise en scène théâtrale. Et donc du coup, il essaye à chaque fois de mettre en scène le moment un peu avant l'action pour qu'il y ait cette tension un peu plus dramatique que s'il dessine juste l'action elle-même.
Pour créer du suspense.
Voilà, c'est une espèce de suspense de dessin, donc c'est un peu particulier. Mais ça fait effectivement, ça donne de l'histoire plus que s'il faisait juste l'illustration brute et un peu bête et méchante de l'action. Et ça, c'est assez intéressant. Et il l'oppose un petit peu à la bande dessinée, où dans la bande dessinée, lui, il y voit plutôt une manière de faire plus cinématographique, où du coup, on va plus être sur des plans qui se succèdent comme au cinéma. Voilà. Et au niveau, bon, et encore, bien sûr, je ressoulignerai une dernière fois la drôlerie des histoires et l'aspect étonnant des tournures que prennent les histoires et les personnages. C'est vraiment des fables dans leur forme, des fables et des contes dans leur forme très classique, mais avec beaucoup d'originalité.
Merci, Cancrela. C'était très intéressant et ça donne vraiment envie de lire ces histoires de chats et de hérons.
Mais tu les as lues déjà.
Oui, mais c'était pour les autres. Quelques dates à retenir concernant l'actualité littéraire en Aveyron et en Occitanie d'une manière générale. Le samedi 20 janvier, on a la nuit de la lecture dans toutes les bibliothèques et les librairies. Donc c'est un partenariat entre les bibliothèques et les librairies autour justement de plusieurs ateliers de lecture. Donc par exemple, à Rodez, à 20h30 à la médiathèque, on a une lecture à la bougie. Donc ça peut être très sympathique. Ensuite, le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 janvier, à Saint-Aurens, il y a le Festival du Livre Jeunesse, ce qui peut être aussi assez intéressant à aller voir. Un peu plus loin, mais bon, ça peut être intéressant. De plus, pour les, s'il y a des personnes intéressées par la création littéraire, les dossiers de candidature pour les bourses de création littéraire 2018 Occitanie, ça se fait maintenant, tout de suite, sur le site de CRL Midi-Pyrénées. Voilà pour les actualités littéraires du mois de janvier 2018. Cancrela, tu avais peut-être une petite citation pour terminer?
Comment tu as deviné? Oui.
C'est mon petit doigt qui me l'a dit.
Alors, on va se quitter sur une citation de Amin Maalouf, qui est « L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. »
Une belle citation sur laquelle méditer un petit peu.
Absolument. Merci et à bientôt.
Oui, on se retrouve très vite pour une prochaine émission des Blablates sur CFM Rodez 107.9. À bientôt.
Ciao.
Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah, bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.